Exposition biblique, chapitre 15. La résurrection du Seigneur est l'accomplissement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La résurrection, la preuve achevée de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si l'on croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par l'apôtre Paul, est-on sauvé de tous les péchés et devient-on le peuple de Dieu? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Première épître aux Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Le cœur de l'évangile prêché par l'apôtre Paul est la nouvelle selon laquelle Dieu résout le problème du péché et justifie les gens par Jésus-Christ. Paul a enseigné qu'une personne qui croit en cet évangile reçoit l'effacement des péchés et se réconcilie avec Dieu. Paul dit ceci dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Cette parole montre que, bien que tous les hommes soient pécheurs, ils reçoivent le salut par la grâce de Dieu à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. De plus, dans Romains chapitre 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est-à-dire que, par la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, on reçoit le salut du péché. Dans le Nouveau Testament, l'expression d'eau et d'esprit est une expression prononcée par Jésus dans Jean chapitre 3, verset 5, et elle est comprise comme l'obtention d'une nouvelle vie grâce au salut accompli dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le cœur de la proclamation de l'évangile de Paul est le suivant. Premièrement, tous les hommes sont sous l'emprise du péché. Deuxièmement, Jésus-Christ a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde être transférés sur lui, a reçu le jugement du péché sur la croix, est ressuscité d'entre les morts et est devenu le Seigneur du salut. Troisièmement, une personne qui croit en cet évangile de l'eau et de l'esprit reçoit l'effacement des péchés et se réconcilie avec Dieu. Quatrièmement, une personne ainsi sauvée en vient à vivre comme le peuple de Dieu. Paul dit donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pour résumer, la Bible enseigne qu'une personne qui croit à l'évangile prêché par l'apôtre Paul reçoit l'effacement des péchés par la grâce de Dieu et devient un peuple appartenant à Dieu. Le salut n'est pas un mérite ou une action humaine, mais un don de salut obtenu par la grâce de Dieu et la foi croyante en Christ. Paul commence par réaffirmer le contenu de l'évangile de manière très prudente et précise. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'un homme qui est mort et qui est revenu à la vie. À l'intérieur de cela, le système sacrificiel de l'Ancien Testament et la signification complète de l'eau sont impliqués en tant qu'imposition des mains. L'expression « pour nos péchés » signifie qu'avant que la mort de Jésus n'ait une signification rédemptrice, tous les péchés doivent être transférés sur le corps de Jésus-Christ par le baptême reçu de Jean. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était le fait que tous les péchés de l'humanité ont été transmis sur le corps de Jésus, et il a reçu le jugement du péché sur la croix pour devenir le Sauveur. Le châtiment de la croix était le jugement de Dieu sur le péché pour les péchés transférés par le baptême. La résurrection est la déclaration de Dieu selon laquelle le jugement de ce péché est complètement et définitivement achevé, et le Saint-Esprit est celui qui nous fait croire et témoigner de tout cela. Par conséquent, l'évangile de l'eau et de l'esprit proclamé par Paul prouve et explique qu'il ne s'agit pas d'une croix d'où la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean est exclue, mais d'un évangile dans lequel le baptême, la croix et la résurrection sont liés ensemble comme un tout qui ne peut jamais être divisé. L'apôtre Paul était-il une personne qui pouvait accomplir le devoir d'un apôtre en recevant le salut par la miséricorde de Dieu et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12? Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 11. En regardant les récits de la Bible, il est clair que l'apôtre Paul était quelqu'un qui a reçu le salut du péché par la miséricorde de Dieu et qui en est venu à accomplir le devoir d'un apôtre. Paul lui-même a également confessé à plusieurs reprises que son ministère n'était pas dû à son propre mérite ou à ses capacités, mais à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Premièrement, Paul parle de son passé ainsi. Il était initialement une personne qui persécutait l'Église. Dans 1 Épître à Timothée, chapitre 1, verset 13, Paul confesse « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Paul dit que bien qu'il fût une personne qui s'opposait à Dieu, il a été transformé en recevant la miséricorde de Dieu. De plus, il dit qu'il a également reçu l'office d'apôtre par la grâce de Dieu. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 9 à 10, Paul dit ceci « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Cette parole montre que Paul reconnaît qu'il a reçu son apostolat non par qualification ou par mérite, mais par la grâce de Dieu. De plus, dans Romains chapitre 1, verset 5, Paul dit « par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat », soulignant que l'office d'apôtre est une mission donnée par la grâce de Dieu. En regardant la vie de Paul, deux faits importants apparaissent. Premièrement, il est quelqu'un qui est devenu un évangéliste choisi par la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, il a été quelqu'un à qui l'on a confié la mission d'apôtre en raison de la grâce du salut donné par Dieu. Par conséquent, Paul ne s'est pas vanté de son propre ministère, mais a toujours mis l'accent sur l'amour miséricordieux de Dieu. Il a confessé que le fait d'avoir été transformé et d'avoir été utilisé comme apôtre étaient tous des œuvres accomplies par Dieu. En fin de compte, l'image de Paul montrée par la Bible est claire. Paul n'était pas une personne qui est devenue apôtre par ses propres capacités, mais une personne qui a reçu le salut par la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui en est venu à accomplir le devoir d'un apôtre par cette grâce. Paul énumère les témoins de la résurrection, Céphas, les 12 disciples, plus de 500 frères, Jacques, tous les apôtres, et finalement lui-même. Le but de cette liste n'est pas de se vanter d'expériences personnelles extraordinaires, c'est de prouver que la résurrection est un fait historique et de consolider le fait que cet événement est le fondement de la proclamation de l'Évangile. Paul ajoute à son sujet « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par conséquent, la résurrection n'est pas une expérience privée ou un mythe religieux réservé à quelques-uns, mais un évangile publiquement prouvé et confirmé concernant le salut accompli par Dieu. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus-Christ, tout son ministère n'est-il pas devenu un échec ? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 19. Selon les enseignements de la Bible, l'apôtre Paul déclare clairement que s'il n'y a pas de résurrection de Jésus-Christ, son ministère aurait été quelque chose qui n'aurait pas pu être achevé. Soulignant l'importance de la résurrection, Paul a expliqué que s'il n'y a pas de résurrection, l'Évangile lui-même ne peut pas être établi. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14, Paul dit ceci « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » De plus, au verset 17, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Cette parole signifie que la résurrection de Jésus n'est pas un simple événement miraculeux, mais le cœur de l'Évangile est un événement qui montre l'accomplissement du salut. Cela signifie que cela ne s'est pas simplement terminé par la mort de Jésus sur la croix, mais qu'à travers la résurrection, il a été confirmé que le ministère est l'œuvre de salut reconnue par Dieu. La résurrection de Jésus a plusieurs significations importantes. Premièrement, il a été confirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Romains chapitre 1, verset 4 dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Deuxièmement, c'est la preuve que Jésus est devenu notre Sauveur parce qu'il a vu les péchés du monde être transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean, a reçu le châtiment du péché sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts. La résurrection montre que la mort de Jésus n'était pas une défaite, mais qu'il est devenu le vainqueur qui a surmonté le péché et la mort. Troisièmement, elle donne une nouvelle vie aux croyants. La résurrection de Jésus devient le fondement de l'espérance que les croyants à l'avenir obtiendront également une nouvelle vie en Dieu. Par conséquent, lorsque Paul explique l'Évangile dans 1 Épître aux Corinthiens 15, il parle de la mort et de la résurrection de Christ ensemble. Il résume le cœur de l'Évangile ainsi. Jésus-Christ a été baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, a été crucifié et est mort sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts pour vivre à nouveau et devenir notre Sauveur. En fin de compte, la vérité importante de l'Évangile dont parle la Bible est la suivante. S'il n'y a pas de baptême de Jésus, de croix et de résurrection d'entre les morts, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'aurait pas été accompli, et la foi en laquelle nous croyons serait également devenue vaine. Cependant, parce que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts, son ministère de salut n'est pas devenu un échec, mais une histoire de victoire et de salut complet. Paul poursuit son argumentation avec une rigueur logique. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de résurrection, cela signifie que le problème du péché n'a pas été résolu. Lorsqu'on regarde à travers le prisme de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, si les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême de Jésus et que ce péché a été jugé sur la croix, la résurrection est le reçu de Dieu et la déclaration que le prix de ce péché a été complètement payé. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'imputation des péchés du monde, pas de jugement du péché et pas d'accomplissement du salut. Tout s'effondre. Le Seigneur, qui est dès les prémices de la résurrection, est-il notre Sauveur? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 28. La Bible désigne Jésus-Christ comme les prémices de la résurrection et enseigne qu'il existe une relation très importante entre lui et nous. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il était les prémices de ceux qui sont morts. » Ici, l'expression « prémices » est un mot qui vient des premiers fruits des produits agricoles à l'époque de l'Ancien Testament. Les prémices signifient le commencement et la garantie de toute la récolte qui suivra. En d'autres termes, la récolte des prémices est un signe montrant que d'autres fruits suivront après elle. En appliquant cette signification, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement de résurrection d'une seule personne, Jésus-Christ, mais elle devient un événement qui garantit la résurrection de tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le premier, et ceux qui lui appartiennent participeront également à cette résurrection à l'avenir. Paul explique ensuite cette relation plus clairement dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Cette parole montre deux faits importants. Premièrement, Jésus-Christ est celui qui devient le commencement de la résurrection. Sa résurrection indique que l'histoire de la nouvelle vie de Dieu a commencé. Deuxièmement, les personnes qui appartiennent à Jésus-Christ participeront à cette résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est un événement lié à l'avenir des personnes qui croient en Jésus comme leur sauveur. Par conséquent, on peut dire que la relation entre Jésus-Christ et nous n'est pas une simple relation de maître à disciple, mais une relation entre la source de la vie et ceux qui participent à cette vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier, les personnes qui lui appartiennent en viennent également à participer à cette vie de résurrection. En fin de compte, l'expression « Jésus-Christ », qui était les prémices de la résurrection, a pour signification que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement passé, mais devient la promesse et la garantie de la nouvelle vie qui sera donnée aux personnes qui croient actuellement en Jésus comme leur sauveur. On peut dire que la résurrection de Christ est un événement qui confirme la nouvelle vie et l'espérance de la résurrection aux personnes qui croient en lui. Paul proclame « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ici, le terme « prémices » est tiré des fêtes de l'Ancien Testament. Les prémices sont une garantie pour la moisson à venir. La résurrection de Jésus est la certitude que la résurrection des saints suivra sûrement. L'ordre est le suivant. Par le baptême que Jésus a reçu de Jean, il a vu tous les péchés du monde être transférés sur lui, a reçu le jugement du péché sur la croix, et par la résurrection d'entre les morts, la puissance de la mort a été brisée, la vie agit à l'intérieur des croyants par le Saint-Esprit, et au dernier jour, la résurrection des saints est accomplie. Par conséquent, la résurrection n'est pas un événement isolé, mais le point culminant de l'histoire, prouvant que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été pleinement accompli. S'il n'y a pas de résurrection pour nous qui croyons en Jésus comme notre Sauveur, ne devenons-nous pas des échecs? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes, pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent de pas Dieu. Je le dis à votre honte, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 29 à 34. Selon les enseignements de la Bible, l'apôtre Paul déclare clairement que s'il n'y a pas de résurrection pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas poursuivre notre foi elle-même. C'est parce que la résurrection est le centre de la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est le fondement de la foi. L'apôtre Paul souligne ce fait très fortement dans le chapitre 15 de 1 Épître aux Corinthiens. Il dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Cette parole signifie pour nous que s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, le fondement de la foi s'effondre. C'est parce qu'elle est accomplie et confirmée par sa mort et sa résurrection, après avoir été crucifiée sur la croix, après avoir reçu le transfert des péchés du monde par le baptême que Jésus a reçu de Jean. De plus, Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 19 « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Cette parole signifie que s'il n'y a pas de résurrection, la foi devient simplement une religion mondaine qui cherche le confort dans ce monde. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une simple éthique ou philosophie, mais l'évangile de la foi bâti sur l'espérance de la résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus donne trois assurances importantes à ceux qui croient. Premièrement, c'est la confirmation que l'œuvre rédemptrice de Jésus a été complètement accomplie. La résurrection montre que la mort sur la croix n'est pas une défaite, mais la victoire de la résurrection qui a vaincu le péché et la mort. Deuxièmement, elle donne l'espérance d'obtenir une nouvelle vie à ceux qui croient. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, les personnes qui croient en son œuvre en viennent également à avoir l'espérance d'une nouvelle vie. Troisièmement, elle donne la force de garder la croyance et la foi jusqu'à la fin du monde. même au milieu des souffrances ou des difficultés présentes, parce qu'il y a l'espérance de la résurrection, on peut continuer sa foi. Par conséquent, Paul dit ceci à la fin du chapitre 15 de 1 Épître aux Corinthiens, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. » En fin de compte, la résurrection d'entre les morts n'est pas seulement un contenu doctrinal, mais le fondement le plus important qui soutient la foi d'un chrétien. Parce qu'il y a la résurrection de Jésus-Christ, les croyants peuvent continuer leur foi avec espérance et vivre une vie dirigée vers Dieu. Paul pose une question perspicace. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Le cœur de ce passage n'est pas dans le rituel lui-même, mais dans le motif. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a aucune raison de supporter la persécution et aucune raison de mourir chaque jour. Cependant, Paul confesse « Chaque jour, je suis exposé à la mort ». C'était parce qu'il vivait déjà dans la foi de l'Évangile où la résurrection était confirmée. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit libère une personne de la peur de la perte présente et fait ajuster sa vie à la norme de l'éternité. N'est-il pas normal que notre corps corruptible revienne à la vie en tant que corps ressuscité? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 49. Selon les enseignements de la Bible, c'est une promesse certaine que le corps corruptible revient à la vie en tant que corps ressuscité. L'apôtre Paul explique le corps ressuscité très clairement dans le chapitre 15 de 1 Épître aux Corinthiens et explique la différence entre le corps physique présent et le corps ressuscité à recevoir dans le futur. Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15 versets 42 à 44 « Ainsi en est-il de la résurrection des morts ». Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Cette parole montre que bien que le corps que nous avons maintenant soit un corps corruptible, Dieu le changera en un corps incorruptible à l'avenir. Le corps présent est faible et affecté par la mort. Mais le corps ressuscité devient un corps glorieux, fort et incorruptible. De plus, Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15, verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Cette parole montre le fait que la résurrection n'est pas un simple concept spirituel, mais un changement réel que Dieu accomplira. Cela signifie que cela ne se termine pas avec la mort, mais que Dieu donne un corps de nouvelle vie. Cette assurance de la résurrection prend son origine dans la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ressuscité le premier d'entre les morts, les personnes qui croient en lui comme sauveur participeront également à la même vie de résurrection à l'avenir. Par conséquent, la Bible appelle Jésus les prémices de la résurrection. En fin de compte, la vérité de la résurrection dont parle la Bible est la suivante. Actuellement, notre corps est faible et affecté par la mort, mais Dieu le changera en un corps ressuscité incorruptible et glorieux à l'avenir. Ce n'est pas une pensée humaine, mais une espérance promise par Dieu, et on peut dire que c'est une promesse confirmée par la résurrection de Jésus-Christ. Paul explique le corps ressuscité en utilisant la parabole de la semence. Ce qui est semé est corruptible, mais ce qui revient à la vie sera incorruptible. Le corps présent porte les restes du péché. Il est donc faible et cède à la mort. Cependant, le corps ressuscité n'est pas contaminé par le péché, il est glorieux et n'est pas dominé par la mort. Le fondement de ce changement est unique. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam a apporté le péché et la mort, mais Jésus, le dernier Adam, a mis fin au péché du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang versé sur la croix, et nous a permis de recevoir le Saint-Esprit comme un don. Nous, qui en sommes venus à entrer dans le royaume du Seigneur en ressuscitant soudainement en un instant à la dernière trompette, en venons à avoir la foi de la résurrection tout en vivant dans ce monde. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Première épître aux Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 57. Selon les enseignements de la Bible, si l'on est une personne qui a l'espérance d'être soudainement changée en un instant et ressuscitée à la dernière trompette, il est juste de vivre une vie servant le Seigneur tout en vivant dans ce monde. C'est parce que l'espérance de la résurrection n'est pas simplement une promesse future, mais le fondement de la foi qui détermine la direction de la vie présente. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. » Cette parole montre que la résurrection et le changement s'accompliront clairement au temps de Dieu dans le futur. Cela signifie que le jour vient où le corps corruptible se changera en un corps incorruptible, et la puissance de la mort ne pourra plus nous retenir. Par conséquent, après avoir expliqué la vérité de la résurrection, Paul exhorte ainsi dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15, verset 58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Cette parole signifie qu'une personne qui a l'espérance de la résurrection doit s'efforcer dans l'œuvre de la propagation de l'Évangile du Seigneur dans sa vie présente. C'est parce que tout le travail accompli pour le Seigneur n'est pas vain. Plusieurs attitudes importantes apparaissent dans la vie des saints qui ont l'espérance de la résurrection. Premièrement, c'est une foi inébranlable. Même s'il y a des difficultés ou des épreuves dans le monde, la foi n'est pas ébranlée parce qu'il y a l'espérance de la résurrection. Deuxièmement, c'est une vie consistant à entreprendre l'œuvre du Seigneur avec joie. C'est parce qu'il y a une certitude que servir le Seigneur n'est pas vain. Troisièmement, c'est une vie de foi regardant vers le royaume de Dieu. On vit en regardant vers le royaume éternel que Dieu accomplira, plutôt que de considérer la vie présente comme étant tout. En fin de compte, si l'on est une personne qui a l'espérance de ressusciter à la dernière trompette et d'entrer dans le royaume du Seigneur, vivre une vie consistant à aimer le Seigneur et à servir selon la volonté du Seigneur tout en vivant dans ce monde peut être considérée comme l'apparence naturelle de la foi. L'espérance de la résurrection devient la plus grande force et la motivation qui fait que les saints vivent en servant Dieu sur cette terre. Paul atteint le point culminant victorieux du chapitre 15. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Cependant, le péché a été transféré par le baptême de Jésus, la puissance du péché a pris fin sur la croix, et la mort a été vaincue par la résurrection. Et cette victoire a été témoignée en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, Paul déclare avec une gratitude débordante « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans la vie de foi, ne devrions-nous pas témoigner de l'Évangile du Seigneur avec assurance ? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Selon les enseignements de la Bible, on peut dire qu'il est juste pour les saints vivant une vie de foi de témoigner de l'Évangile du Seigneur avec assurance. C'est parce que l'Évangile n'est pas une pensée ou une philosophie humaine, mais la nouvelle d'une vie nouvelle donnée par Dieu pour sauver le monde. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Cette parole montre le fait que l'Évangile n'est pas simplement des mots religieux, mais la puissance de Dieu qui sauve les gens du péché. Par conséquent, Paul n'avait honte de l'Évangile dans aucune situation et le prêchait avec assurance. De plus, en regardant le livre des Actes, les saints de l'Église primitive ont montré la même attitude. Dans Actes chapitre 4, verset 29, il prie Dieu ainsi « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Cette prière montre non pas que les saints étaient des personnes sans peur, mais qu'ils essayèrent de prêcher l'Évangile avec assurance en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Évangile doit être témoigné avec assurance. Premièrement, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu qui sauve les gens. Deuxièmement, parce que Jésus-Christ a commandé aux disciples de prêcher l'Évangile. Troisièmement, parce qu'à travers l'Évangile, les gens en viennent à connaître Dieu. Cependant, la Bible ne met pas l'accent uniquement sur le fait de parler fortement lors de la prédication de l'Évangile. 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, enseigne de rendre raison de notre espérance avec douceur et respect. C'est-à-dire que lors de la prédication de l'Évangile, une attitude d'humilité et d'amour est également nécessaire, en plus de l'assurance. En fin de compte, les saints vivant une vie de foi doivent vivre une vie consistant à croire en la puissance de Dieu et à témoigner avec assurance, plutôt que de se cacher ou d'avoir honte de l'Évangile. À travers une telle vie, l'Évangile de Dieu est prêché et la voie est ouverte pour que de nombreuses personnes en viennent à connaître Dieu. Paul conclut par une exhortation finale. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Quelle est la raison pour laquelle nous devons rester fermes et ne pas être ébranlés? Ce n'est ni parce que le salut est incomplet, ni parce que nous devons le prouver par des œuvres. C'est parce que le salut a déjà été complètement accompli par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. 1 Épître aux Corinthiens 15 demande à chacun de nous aujourd'hui « La résurrection en laquelle vous croyez n'est-elle qu'un des miracles ? Ou prouve-t-elle par la résurrection que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été accompli ?» Un sermon de Paul C. Jong, 1 Épître aux Corinthiens chapitre 15. Bien-aimés saints, aujourd'hui à travers les paroles de 1 Épître aux Corinthiens 15, nous allons examiner en profondeur quel est le cœur de l'Évangile, quelle relation cet Évangile a avec notre salut et quelle est la signification de la résurrection. Ce chapitre n'explique pas simplement la doctrine de la résurrection, mais c'est la parole qui révèle le plus clairement ce que nous devons croire pour atteindre le véritable salut. L'apôtre Paul déclare d'abord ainsi « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Cette parole est très importante. Le salut ne s'obtient pas par une croyance vague, mais il s'obtient lorsqu'on croit à l'Évangile exact. Alors, quel est cet Évangile? Paul continue en disant « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Cette parole résume le cœur de l'Évangile. Cependant, nous devons aller plus loin ici. Nous devons savoir comment cette parole « est mort pour nos péchés » s'est accomplie. Jésus n'est pas simplement mort sur la croix, mais a d'abord pris sur lui-même les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Par ce baptême, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, et dans l'état de porter ses péchés, il a reçu le jugement sur la croix. Et en ressuscitant, ce salut a été complètement accompli. C'est exactement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien-aimés saints, si l'on ne connaît pas cette structure, une personne ne peut toujours pas être libérée du problème du péché même en croyant à la croix, parce qu'ils ne savent pas comment mes péchés ont été transférés sur Jésus. Cependant, lorsque nous connaissons l'évangile où le baptême et la croix sont liés comme un seul événement, nous en venons à savoir clairement le fait que nos péchés sont déjà complètement passés à Jésus et ont été complètement jugés sur la croix. Par conséquent, Paul dit « Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit avec précision, il semble que vous croyez, mais en réalité, cela peut devenir une croyance vaine. Dans les paroles suivantes, Paul souligne l'importance de la résurrection. Certaines personnes disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Cependant, Paul parle fermement « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Cette parole est très puissante. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi s'effondre complètement. Parce que la résurrection est la preuve de Dieu que le ministère de Jésus a été complètement accompli. Jésus a porté les péchés par le baptême reçu de Jean, a reçu le jugement de ce péché sur la croix, et en ressuscitant d'entre les morts, Dieu a reconnu ce salut. Par conséquent, la résurrection n'est pas un simple miracle, mais un événement qui confirme l'accomplissement du salut. Paul continue en disant « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous sommes originellement nés pécheurs en Adam, cependant maintenant nous sommes devenus justes en Christ. » Ce changement n'a pas été fait par nos efforts. C'est possible parce que Jésus a porté et résolu nos péchés en notre nom. De plus, Paul explique le corps ressuscité. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Nos corps actuels sont faibles et limités. Mais à l'avenir, nous serons transformés en des corps complètement nouveaux. Ce n'est pas une simple espérance future, c'est une promesse certaine qui est possible parce que le salut a déjà été accompli. Paul déclare donc à la fin ainsi « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Cependant, parce que Jésus a déjà résolu ce péché, la mort ne peut plus régner sur nous. Bien-aimés saints, c'est cela l'évangile. Nous ne sommes plus ceux qui sont sous le péché. Nous ne sommes plus des êtres qui devraient craindre la mort, nous sommes ceux qui ont déjà été victorieux en Jésus-Christ. Paul dit donc, en conclusion ainsi, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ébranlés? Parce que notre salut a déjà été accompli. Parce que notre foi ne dépend pas de notre condition, mais dépend du fait que Jésus a accompli. » Bien-aimés, 1 Épître aux Corinthiens 15 nous demande ainsi « Connaissez-vous avec précision cet évangile de l'eau et de l'esprit ? Si nous sommes encore dans la crainte du péché, nous devons vérifier l'évangile à nouveau. Jésus a déjà porté tous vos péchés par le baptême reçu de Jean, a complètement résolu ce péché sur la croix et a accompli le salut avec la résurrection. Celui qui croit en cet évangile n'est plus un pécheur mais une personne juste, plus quelqu'un qui appartient à la mort, mais quelqu'un qui appartient à la vie. » Maintenant, nous devons nous tenir fermement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec une foi qui ne chancelle dans aucune situation, nous devons vivre en nous accrochant au salut qui a déjà été accompli. Je prie au nom du Seigneur pour que cet évangile s'enracine fermement dans vos cœurs, afin que vous en veniez à vivre avec une foi audacieuse qui ne craint même pas la mort.